qu'on entend est un extrait du documentaire audio À bras le corps de Caroline Boyer et Pauline Chevalier, disponible en ce moment sur Radio Panique et qui se passe dans un cours d'autodéfense féministe au sein de l'ASBL Garance à Bruxelles, que je vous recommande d'écouter juste après cette chronique. Alors moi, je vais vous parler du livre. Le livre, c'est Non, c'est non, petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Écrit par Irène Zellinger et sorti en 2008. Alors Irène Zellinger, c'est une sociologue et formatrice d'autodéfense pour femmes. Elle a travaillé avec plus de 5000 femmes depuis 25 ans, dans différents pays, dont la France, la Belgique et le Luxembourg. Je me suis passionnée tout l'été pour ce livre prêté par ma psy et j'ai adoré en parler autour de moi, d'où l'idée d'en parler ici, de passer le message au plus grand nombre. Alors le but du livre, c'est de combattre le mythe qui dit qu'on doit surtout pas se défendre pour survivre, si on veut pas aggraver l'agression et énerver encore plus l'agresseur. En fait, les statistiques montrent que la défense physique n'entraîne l'escalade de la violence que dans un cas, sur presque 300 tentatives de viol par exemple. L'auteur et les études sur les femmes agressées soutiennent que reconnaître les formes de violence et se défendre est plus efficace et que les conséquences néfastes sont moins graves. Même une défense légère contre le viol, dire non, faire des gestes de résistance, fait cesser l'agression dans 3/4 des cas. Par contre, il n'y a pas de garantie absolue. En tout cas, elle soutient qu'il faut éviter de dépendre de l'homme pour sa protection, surtout que parfois c'est l'homme en question l'auteur des violences. Attention, c'est pas du tout une promotion de la violence, au contraire. Les conseils sont toujours d'éviter la violence au maximum, de se protéger soi et les autres. Le but, c'est de contribuer à un monde moins violent, pas à un monde où la violence aurait changé de camp. Je vais vous faire une synthèse du livre et mon but, c'est de vous donner envie d'aller au cours, parce que rien ne remplace la pratique, de lire le livre, et si c'est pas le cas, au moins de vous amener à réfléchir à ces questions. D'abord, un mot sur la violence. Pour se défendre, il faut connaître la violence et ses conséquences. Elle peut être physique, sociale, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, sexuelle, économique. Les théories féministes définissent d'abord la violence comme un problème d'homme. C'est une prise de position politique. La violence est fondée sur les inégalités de pouvoir entre hommes et femmes. Et moi, je pense que ça peut être rapporté aux autres dominations, pour les personnes blanches et racisées, les riches et les pauvres, les valides handicapés, les LGBTQIA+, et personnes hétéros, les enfants et les adultes, les gros, les grosses et les minces, etc. Un bémol cependant, c'est vrai que la formation est générique, et comme je l'ai lu dans un texte écrit à Garance ASBL par un groupement de personnes racialisées, féministes et antiracistes, elle ne semble pas prendre en compte l'incorporation de l'intersectionnalité, des violences raciales, de validisme, de transphobie, liées au statut de sans-papiers, etc. Ces personnes appellent à envoyer un mail à l'ASBL Garance pour les interpeller sur cette question. Elles expliquent avoir besoin que la reconnaissance de leur réalité soit explicitement reconnue et abordée, et que ces formations génériques, autrement dit pour les blancs et les blanches, ne sont plus de ce monde. C'est une matière à réflexion, je pense, sur ces formations. À noter que l'ASBL Garance a répondu à leur demande en disant que l'ASBL avait des projets destinés aux femmes les plus dominées et qu'elle en avait le souci, mais que ce n'était effectivement pas assez, en particulier pour les femmes racisées, et elle proposait une co-construction de formations spécialisées pour ces femmes. J'espère maintenant que ce projet se fera vraiment parce qu'il est nécessaire. Donc le but, c'est de reconnaître les types d'agressions et de reconnaître les stratégies à efficacité limitée, comme faire l'autruche, c'est-à-dire faire comme si rien ne se passait, comme si c'était pas grave, ou bien se venger, par exemple. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Les stratégies efficaces, comme surprendre par le non-sens, en disant par exemple « mais tu as le couteau dans la mauvaise main ». Ça permet que la personne se réfléchisse à ce qu'on vient de dire, et puis nous, du coup, on a le temps de fuir ou de prévenir quelqu'un. Il y a aussi attirer l'attention, demander de l'aide avec des instructions claires. Par exemple, vous, avec les lunettes, appelez la police s'il vous plaît. Ou évidemment la fuite, quand c'est possible et sécure. Alors, elle parle de 4 types d'autodéfense, l'autodéfense mentale, émotionnelle, verbale et physique. Et particulièrement dans le cadre de l'autodéfense féministe, Mais je pense que là aussi, on peut généraliser aux inégalités en général, en particulier les inégalités de pouvoir. L'autodéfense commence par le mental et l'émotionnel. Il s'agit de se convaincre de sa propre valeur, de son propre droit au respect, et particulièrement au respect de ses limites, de son droit de ressentir des émotions et de les exprimer. Je vais commencer par l'autodéfense mentale. À cause de la sociabilisation des femmes, les stratégies efficaces que sont l'impolitesse, la colère, la méfiance ou la défense physique, par exemple, sont mal vues de la part d'une femme et on y est mal préparé. Par exemple, moi, quand il m'arrive de placer des limites claires, on me trouve impoli ou désagréable, je dérange le monde, on me trouve agressive. C'est difficile à gérer parce qu'on m'a aussi appris qu'il fallait qu'on m'aime. C'est culpabilisant et malaisant quand quelqu'un me renvoie cette image, je me remets en question et souvent je reviens sur ce que j'ai dit. Elle soutient que c'est pas grave de pas être aimé par quelqu'un si cette personne n'est pas capable d'apprécier que je pose mes limites. Alors je n'ai pas besoin qu'elle m'aime et de passer du temps avec elle parce qu'elle peut être nocive pour mon équilibre. On se conforme à des stéréotypes pour plaire parce que notre estime de soi est très liée à l'image que les autres ont de nous. Mais si on a confiance en nous et en ce qu'on croit, alors on n'a plus besoin des autres pour notre validation. Les obstacles à une bonne autodéfense mentale, c'est qu'on n'a pas de modèle positif, que ce soit dans le partage d'expériences et surtout les films et la pop culture en général, même si ça commence un petit peu à changer, mais c'est souvent l'homme qui vient secourir la femme fragile qui a besoin de lui. On s'occupe des autres avant nous-mêmes, on n'a pas une image positive de nos capacités de défense, d'ailleurs on imagine qu'elles sont nulles, on imagine le pire, on cherche des excuses, il est fatigué, il a des problèmes en ce moment, on banalise et on a trop d'espoir, on se dit qu'il va changer, etc. Mais il faut se répéter qu'on a le droit de se défendre, un peu d'égoïsme est nécessaire pour être altruiste, on a le droit de signaler une tension ou qu'on transgresse nos limites. On a le droit de refuser de porter la responsabilité des problèmes des autres. On a le droit d'avoir confiance en soi et de tout faire pour maintenir notre intégrité. Alors les solutions, c'est en parler, partager les histoires, prendre des bonnes habitudes, par exemple être attentive à nos émotions et à nos sensations. Réfléchir à ce qu'on veut vraiment, agir et prendre l'initiative, prendre un cours par exemple, ou se préparer mentalement. Être flexible dans nos réactions, ce qui nécessite une préparation, hein. Être solidaire et fêter nos succès, les partager. Faire de la visualisation mentale, par exemple, imaginer une situation de danger et s'imaginer agir et se défendre pour préparer son cerveau et ne pas se retrouver bloqué quand et si la situation arrive. Après, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment, comme tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, hein. Ça demande un travail, de la confiance en soi. La confiance en soi, ça s'apprend. On peut suivre une thérapie, méditer, visualiser, s'entourer de personnes saines et qui nous comprennent. Le communautarisme tant décrié dans les médias est, à mon avis, à la fois partout. Les hommes blancs cis, sont les premiers communautaires, à mon avis. Et salvateur, parce que ça aide beaucoup d'être entouré de personnes qui vivent les mêmes choses, surtout quand c'est des discriminations. Mais ça prend du temps. Et je me pose quand même la question, comment on fait quand on a affaire à quelqu'un dont on a besoin de la validation? Le patron, le propriétaire, etc. Je me rappelle avoir dû mentir sur l'origine de mon nom de famille, qui est algérien, et dire qu'il était corse, afin d'obtenir mon premier appartement. Là, clairement, j'ai dépassé mes limites. C'était humiliant et rageant. Surtout que mon nom de famille est très important pour moi. Mais je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, en fait. J'avais besoin de cet appartement. On va maintenant parler de l'autodéfense émotionnelle. Bon, là, c'est une partie importante parce que vraiment, les émotions des femmes ont mauvaise presse. On parle de susceptibles, émotives, agressives, hystériques. Ce sont des émotions qu'on assimile négativement aux femmes. Ça crée de la culpabilité pour nous et ça délégitime nos ressentis. Mais quoi qu'il arrive, les émotions sont présentes et se manifesteront d'une manière ou d'une autre. Si on les inhibe, elles ressortiront d'une autre manière et peut-être qu'on ne t'y attendra pas. Moi, et je pense que je suis pas la seule, je laisse rarement la place à mes émotions et je me suis rendu compte que c'était à cause de ça que j'étais très nerveuse et que je m'énervais pour des choses qui paraissent pas graves. Une voiture qui me laisse pas traverser, ça c'est un gros déclencheur. Ou un oubli, quelqu'un qui me dérange, etc. Pour d'autres qui passeront très vite à autre chose, moi ça peut me ronger longtemps, parce que en plus je culpabilise de m'être énervée pour si peu. J'essaie maintenant de réagir et de laisser place à mes émotions quand je les vis, et je vois la différence même si c'est pas parfait et que j'y arrive pas toujours. Ce qui nous aide pas pour se défendre, c'est qu'on n'a pas confiance en nos émotions. Par exemple, on réagit pas quand notre alarme intérieure sonne, on se dit qu'on s'inquiète pour rien, etc. Irène nous dit qu'il faut se fier à ses émotions. Si j'ai peur, c'est que j'ai peur. Si je m'énerve, c'est que quelque chose m'énerve et c'est une bonne raison pour réagir. Un autre obstacle, c'est qu'on fait pas la différence entre la peur, qui vient d'une situation réelle, et l'angoisse qui vient des images et messages de la société, par exemple celui qui nous dit qu'il est dangereux de sortir la nuit dans une rue déserte. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité puisque la majorité des femmes sont agressées chez elles par des personnes qu'elles connaissent. Encore et toujours, on trouve des excuses, on se sent coupable à notre détriment et on a peur de notre propre colère. Mais on a le droit d'écouter notre intuition et d'exprimer nos émotions. Alors les solutions, c'est déjà d'être moins exigeante avec nous-mêmes, de protéger nos points vulnérables. Là, ce sont des anciennes blessures qui vont se réveiller alors même que la personne peut ne pas chercher à nous nuire. Il faut essayer de maintenir un taux d'adrénaline bas, par le sport, activité manuelle, respiration. Utiliser nos émotions pour déterminer nos limites. Si je me sens mal à l'aise, c'est qu'il est trop près. Peu importe s'il n'est pas d'accord ou s'en rend pas compte, même si je me dis que j'exagère ou que c'est pas si grave, si je me sens mal à l'aise, c'est que ma limite est là. Il faut prendre soin de nos émotions, se mettre à l'aise, prendre du recul mental, respirer.
Une ou deux grandes inspirations.
Autodéfense verbale. D'abord, il faut savoir qu'on l'utilise quand il n'y a pas de danger physique immédiat et que l'agresseur est disponible à ce qu'on lui dit, qu'il n'est pas ivre ou parti, que ce n'est pas une compétition.
Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort.
Ni de l'éducation, mais pour faire arrêter l'agression. Là, je trouve qu'on touche un point vraiment difficile, c'est que le but, c'est de se protéger et pas de gagner, alors qu'on a envie de convaincre, d'expliquer ou même de punir parfois. Je me rappelle encore avec colère que mon ancien colocataire m'avait envoyé un message d'insulte, sale obèse, mal baisée, idiote, etc. Je n'avais pas répondu par peur que l'agression continue, mais je suis restée avec cette humiliation et cette colère, surtout que l'agression a été sans conséquence pour lui. Comment dealer avec l'impunité autour des agressions et particulièrement des agressions verbales, d'autant plus présentes sur les réseaux sociaux? J'avais et j'ai encore envie qu'il paye. Se protéger est important, mais travailler sur les ressentis d'après-agression l'est tout autant, et c'est vraiment pas facile. Ce qui nous aide pas, c'est qu'on croit toujours que c'est notre faute. On a trop souvent la langue dans notre poche. Là encore, ça vient de notre sociabilisation. On ne doit pas prendre trop de place. On parle comme des femmes. On dira plutôt « j'ai l'impression que tu t'approches trop » au lieu de dire « tu es trop près, recule ». On suggère au lieu d'affirmer, on met en doute. On n'utilise pas assez le mot « non », mais plutôt « je préférerais pas, peut-être une autre fois ». On se justifie toujours alors qu'il ne faut pas laisser de marge de négociation. C'est mieux pour nous et les autres parce que c'est plus clair. On se contredit entre le verbal et non-verbal. On dira non avec un sourire, par exemple. Et on se décourage trop vite. J'ai dit non verbalement et non verbalement. Mais il insiste, j'insiste aussi, je reste claire et ferme. Je me répète tant que nécessaire. C'est la technique du disque rayé. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rembobiner. Flow, flow. On a le droit d'être impoli, de parler de nous et d'être prise au sérieux, de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Elle donne beaucoup de clés pour aider. Je vais pas toutes les citer, mais on peut utiliser le non-verbal avec une position de pouvoir, sans sourire. On peut choisir de déstabiliser complètement par la confirmation non-ironique. Par exemple, quand on me dit « qu'est-ce que tu es susceptible ?», je réponds « c'est vrai, je suis sensible, merci ». Il faut savoir poser ses limites pour des critiques destructrices. Quand on me dit « ton projet est à côté de la plaque », alors je réponds par une question antidote « qu'est-ce que tu veux dire par à côté de la plaque ?» Ou alors je mets en question les motivations de l'agresseur en disant « qu'est-ce que ça t'apporte de me dire ça ?» Enfin, on peut pratiquer la technique des trois phrases. Décrire le comportement dérangeant « votre main est sur ma fesse ». Décrire le sentiment que ce comportement provoque chez nous « je n'aime pas ça ». Faire une demande concrète. Retirez votre main tout de suite. Attention à ne pas répondre aux appâts communicatifs, s'il répond qu'il n'y a pas assez de place ou qu'il nous insulte. On ne discute pas tant que l'agression n'a pas cessé et on répète. Quand c'est trop dangereux, on négocie. Mettre un préservatif pendant un viol, par exemple, ou pendant un vol, garder les papiers et donner l'argent. Tout ça s'apprend, se répète et peut s'avérer vraiment utile au quotidien. Moi, ça me donne l'espoir d'arriver un jour à placer mes limites et à être droite dans mes bottes. Et enfin, on termine par l'autodéfense physique. Le problème, c'est qu'on est sociabilisé à ne pas se battre, parce qu'on considère que c'est pas un comportement féminin. On se crée un corps de femme, vulnérable, d'attractivité sexuelle. On est loin de notre corps, c'est le principe de la femme objet. Même si ça aussi c'est en train de changer à petits pas et qu'on peut jouer avec ça en inversant les rôles avec humour. Et on n'a pas confiance en notre propre force, on n'est pas encouragé à mesurer notre force et les films idéalisent la force masculine. En fait, en moyenne, les hommes gagnent en force des bras et des épaules, mais les femmes gagnent en endurance et en force du bassin. Et les femmes rattrapent les hommes dans beaucoup de sports. On a peur de faire mal et d'avoir mal. Mais il faut se dire qu'on a le droit de faire du mal à quelqu'un pour se défendre. Il faut se rappeler qu'on en vaut la peine et que c'est l'agresseur qui décide qu'il va y avoir de la violence. On a le droit de survivre et de bien vivre après aussi. J'ai été plusieurs fois agressée verbalement et physiquement sur mon lieu de travail et je me suis pas défendue parce que j'avais peur de l'agresseur et aussi de perdre mon travail. Et à chaque fois, j'ai eu aucun soutien de ma direction, au contraire. On m'a dit que c'était de ma faute, du coup j'ai beaucoup culpabilisé. Et la police m'a dit qu'étant donné que j'avais pas de marque sur le corps et que c'était pas une agression raciste, il n'y avait rien à faire. J'ai été et je suis encore très en colère et le sentiment d'injustice reste très présent. Maintenant je me dis que même sur mon lieu de travail, j'avais le droit de me défendre, que je n'avais agressé personne et que c'était pas de ma faute. Mais comment faire quand on a besoin de son travail? Et comment continuer à travailler avec des gens qui, au lieu de nous soutenir, on continue l'agression. Quelques clés. Il y a d'abord prendre notre espace, faire attention à notre posture, prendre de la place avec notre regard, nos gestes, garder une position d'équilibre. Faut libérer sa voix et crier. Ça permet de signaler aux autres, mais aussi de surprendre l'agresseur et de se signaler comme victime difficile. Transformer la peur en colère, nous protéger, on peut fermer la bouche, expirer après un coup, protéger sa tête, etc. Apprendre à tomber. Apprendre les points vulnérables pour mettre un terme rapidement à l'agression, comme la tempe, les oreilles, le larynx, etc. Notre corps est une arme. On peut choisir 2-3 techniques et les visualiser pour les enchaîner en alternant haut et bas. Ha! Il y a des prises contre l'étranglement, si on est à terre, s'il est sur nous, s'il a une âme, s'il est loin, s'il est près, s'ils sont plusieurs, si on est plusieurs. Un écho à la réflexion que j'apportais au début sur la nécessité d'intégrer l'intersectionnalité et le cheminement décolonial, le livre parle de la question des femmes noires, lesbiennes ou handicapées qui sont plus souvent agressées avec armes et plus brutalement.
Il faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusillent des yeux la façon dont je m'habille, me demandent si je suis un garçon ou une fille, veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode.
À la fin, elle parle de la pré-agression et donne des conseils. Elle recommande de se mettre en sécurité et de faire venir une personne forte qui pourra nous soutenir. Vérifier ses blessures, de prendre des photos, d'écrire un compte-rendu. Pour ce qui est de porter plainte, elle décrit les avantages et inconvénients et rappelle qu'il y a une impunité inquiétante. En tout cas, il faut prendre le temps, chacun son rythme, ne pas rester seul, chercher du soutien, parler et être patiente avec soi-même. Un dernier mot sur l'intersectionnalité. J'ai subi de la violence en tant qu'enfant, ado, puis femme, en tant que grosse, métisse ou banlieusarde. Mais jamais parce que j'étais valide, hétéro ou cis. Il me semble indispensable de toujours se rappeler qu'en tant que féministe, il y a des choses qu'on ne subit pas et d'écouter les victimes. D'où la nécessité d'un féminisme intersectionnel. Et je sais qu'un homme sans papier, par exemple, peut subir plus de violences que moi, j'en subirai jamais en tant qu'européenne. Mon combat est aussi que ces violences-là cessent. Trop souvent encore, certaines violences sont ignorées ou même niées dans les groupes féministes. Ça doit changer si on veut que la violence cesse. Il faut écouter et se remettre en question, toujours. Et je pense que la violence vient évidemment du patriarcat, mais aussi du capitalisme, et qu'en tant que féministe, nous nous devons de combattre les deux. Je termine sur ces deux citations auxquelles j'ai pensé en lisant le livre.
Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre. Virginie Despentes. King Kong Theory.
La deuxième est importante, d'abord parce qu'elle est d'Angela Davis, une militante états-unienne admirable. Ensuite parce qu'elle pose à nouveau la question de l'intégration de l'intersectionnalité et d'une pensée volontairement décoloniale dans ses formations. Et enfin parce qu'elle pose aussi la question des violences par un autre prisme, celui de la violence raciale.
Leur myopie historique les empêche de comprendre qu'en dépeignant le noir comme un violeur, on invite ouvertement le blanc à faire usage du corps de la femme noire. Cette fiction du violeur noir a toujours renforcé son complément, l'impudeur prétendue des femmes noires. Une fois que l'on a accepté que les noirs ont une sexualité bestiale et des besoins irrépressibles, la race entière est investie de la même bestialité. Angela Davis, Femme, race et classe.
Don't touch my hair. It's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's a rhythm I know. Don't...
Voilà, j'ai fait ce podcast avec le cœur et les tripes, avec la pression difficile à gérer d'être parfaite et de plaire à tout le monde. J'ai fini par lâcher prise. Il est ce qu'il est et puis il a le mérite de me plaire à moi. C'est d'abord ce qui compte. J'espère qu'il vous donnera envie de lire ce livre passionnant et de suivre le cours. Moi, c'est ce que je vais faire. Depuis cette lecture, je suis de bien meilleurs conseils pour moi-même et pour les autres. En tout cas, c'est mon impression. Et je trouve très régulièrement des raisons d'analyser la situation sous ce prisme et d'utiliser ces techniques, que ce soit dans la rue, dans mes relations amicales ou amoureuses, et dans le travail aussi. Vous pouvez commander le livre en librairie ou gratuitement en PDF sur le site de Garance ASBL. Vous pouvez suivre des cours chez Garance ASBL ou au Nemesis Fighting Club qu'on trouve sur Facebook. Mais je n'ai pas d'infos sur le contenu du cours, donc il faut vous renseigner. Ce podcast est écrit et réalisé par Bettina Corjani et les participantes sont toutes des femmes racisées. Je le précise parce que c'est important que nos histoires soient racontées par nous et de le visibiliser. Merci à Irène Zellinger pour ce livre, à Garance ASBL, à Corinne Boyer et Pauline Chevalier pour leur générosité et le partage de leur documentaire à bras-le-corps. Merci à Lucille et Déborah pour leur voix et leur sororité. Merci à Caro et Laura pour leurs conseils et leur amitié. Merci à Radio Panique. Je vous quitte avec Aya Nakamura, victime régulière d'agressions sur les réseaux. Soutien à toi, à toutes mes sœurs et à tous mes frères.
Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu frustrant. Mais mon Dieu, que c'est doux.